VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Libreville, bienvenue à notre journal. En Algérie, deux policiers ont été tués ce jeudi lorsqu'un kamikaze a déclenché sa ceinture d'explosifs après avoir tenté de pénétrer dans le quartier général de la police à Tiaret, à environ 350 km au sud-ouest d'Alger. C'est ce qu'annonce l'agence de presse officielle algérienne APS. Selon APS, un policier en faction s'est jeté sur l'assaillant dans un acte de bravoure. Dans la vie, en même temps que le kamikaze. Un autre policier touché par l'explosion a succombé à ses blessures. Afrique de l'Ouest, l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, sera confirmée en décembre, a déclaré Marcel Alain de Souza, le président de la Commission de l'Organisation Ouest-Africaine. Selon M. de Souza, les 15 chefs d'État de la CEDEAO ont exprimé de manière souveraine et en toute liberté leur volonté d'inclure le Maroc à la CEDEAO. Niangale Bagayoko, experte sur les questions de sécurité en Afrique, relève les défis qui attendent le Maroc dans la sphère ouest-africaine.
Cette intégration impliquera une discontinuité territoriale de l'espace CEDEAO dans la mesure où la Mauritanie a choisi de quitter l'organisation en 2000. Donc le Maroc fera partie d'une organisation sans être directement frontalier de la plupart des pays qui en sont membres. Donc cela constitue un premier élément étonnant. D'autre part, il a été indiqué par la diplomatie marocaine que le Maroc adhérerait à une monnaie commune de l'espace CEDEAO, qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, hein, puisque la plupart des États francophones font partie de la zone franc, donc ont pour monnaie le franc CFA, tandis que d'autres, tels le Nigeria, le Liberia et la Sierra Leone, notamment, ont leur propre monnaie. Donc cette idée de monnaie commune, alors que la monnaie du Maroc est le dirham, apparaît également comme assez surprenante. D'autre part, comme je l'indiquais précédemment, ces questions sécuritaires, la zone CEDEAO, notamment en raison de toute l'instabilité qui touche à la fois la zone du Sahel et la zone du Nigeria, du Niger, etc., aux confins de l'Afrique centrale avec la menace de Boko Haram, risquent également d'entraîner le Maroc, si ce n'est un engrenage sécuritaire, en tout cas, de le confronter à des menaces auxquelles il n'est pas directement actuellement en prise.
Niangali Bagayoko, spécialiste des questions de sécurité en Afrique. Gabon, fin des investigations en France sur le patrimoine des membres du clan de Feu Omar Bongo. L'ancien chef de l'État gabonais, décédé en juin 2009, détenait des biens considérables en France, d'après les conclusions de l'enquête. Éric Manirakiza.
Les juges français en charge de ce dossier ont terminé leurs investigations. Toutefois, il s'interroge sur de possibles liens entre l'actuel président gabonais Ali Bongo et une société suisse Achimob, notamment propriétaire d'un hôtel particulier à Paris. L'année dernière, les enquêteurs ont ordonné la saisie d'une société civile immobilière, propriétaire d'une villa à Nice et d'un hôtel particulier à Paris. La gérante française de cette société a été mise en examen, mais aucun membre du clan Bongo n'a été poursuivi. L'ONG anticorruption Transparency International, partie civile dans l'enquête, a dit en 2009 que la famille Bongo et ses proches possédaient à l'époque 33 propriétés en France. Pascaline Bongo aurait acheté pour près d'1,38 million d'euros de montres et bijoux entre 2006 et 2007. Cette vaste enquête, dite de biens mal acquis, lancée depuis 2010, vise à déterminer si leurs acquisitions proviennent des fonds publics détournés. Elle a débouché sur un premier procès à Paris contre le fils du président de Guinée équatoriale et actuel vice-président du pays, Théodorin Obiang. Il sera fixé sur son sort le 27 octobre prochain.
En RDC, c'est finalement le 4 septembre que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, commencera le processus d'enrôlement des électeurs dans le Kasaï, région secouée par des violences depuis août 2016. Les détails avec Eddy Isango.
La date a été annoncée à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, où la CENI, les gouvernements et les conseils nationaux du suivi de l'accord du 31 décembre évaluaient hier les processus électoraux. Corneille Nanga, le président de la CENI, a dans un discours public demandé à la population de participer massivement à l'opération en vue, a-t-il dit, de permettre à la CENI de publier les calendriers électoraux. Le gouvernement a pour sa part rassuré que l'espace du Kasaï central ainsi que les territoires de la Lomami sont désormais sécurisés. Le ministre de l'Intérieur a donc autorisé à la CENI d'y déployer son matériel et son personnel, d'identifier et enrôler sans attendre les électeurs. L'enrôlement dans cette région était jusque-là incertain et constituait une des raisons du report probable des élections devant se tenir avant décembre selon l'accord politique du 31 décembre. Plus de 40 millions et demi de électeurs ont jusque-là été enrôlés dans les 24 autres provinces d'après la CENI. Des membres de la CENI ont été tués et des bureaux vandalisés dans les violences au Kasaï qui ont coûté la vie à au moins 3000 personnes.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Cameroun, le président camerounais Paul Biya a ordonné hier l'arrêt des poursuites judiciaires contre plusieurs leaders de la minorité anglophone en lutte depuis novembre dernier contre le pouvoir central de Yaoundé et poursuivi pour actes de terrorisme. Mais malgré ce geste de clémence, les anglophones n'en continuent pas moins de réclamer un véritable dialogue. C'est le cas d'Angela Forbin, une activiste anglophone camerounaise vivant dans le Maryland, ici aux États-Unis.
On a remarqué qu'après l'arrestation, il y a eu quelques mesures pour saupoudrer la crise. Ce que j'appelle le paracétamol pour guérir un cancer, ça va calmer les douleurs, mais à la fin, c'est un problème qui va ressortir comme un vrai serpent de mer si le président Biya ne prend pas la mesure. Et pour moi, qu'est-ce que je pense vont être de bonnes mesures? C'est d'abord le temps de dialogue.
Angela Forbin, une activiste anglophone camerounaise résidant aux États-Unis. Au Rwanda, des drones au secours des malades dans les salles d'urgence. Leur mission, livrer des poches de sang dans un délai record. Avant, il fallait au moins 3 heures, voire même une demi-journée pour avoir une poche de sang dans des cliniques de l'ouest du pays. Aujourd'hui, le délai a été considérablement réduit, entre 15 et 20 minutes seulement. Le reportage de Charlie Kasereka.
Pour voir ces bijoux qui sauvent des vies, il faut aller à Muhanga. C'est à 1h30 des routes et à l'ouest de Kigali, en traversant des villages et des collines, avant de retrouver les petits drones ports installés pour cette fin. Ici, tout est mis en place pour effectuer des transferts sécurisés. Ce matin, des commandes d'urgence viennent d'être effectuées. Arthur, l'un des ingénieurs de la base Zipline Rwanda, explique.
Ce matin, on a déjà effectué 3 lancements. Il y a eu 2 lancements d'urgence. Comme vous devez le savoir, on délivre déjà donc à une douzaine d'hôpitaux, majoritairement sur l'ouest du Rwanda.
Une autre commande en cours à notre présence. Dans la cabine où sont conservées les poches de sang, une équipe de 3 personnes emballe les colis avant de les confier à l'équipe d'ingénieurs à l'extérieur pour les décollages.
Là maintenant, on vient de recevoir une commande venant de l'hôpital de Rouli, et c'est à peu près à 2h30, 3h d'ici. Mais on va pouvoir aller livrer la commande 18 minutes pour arriver à l'hôpital. Quand le paquet arrive à l'hôpital, le drone va jeter le paquet à 10 mètres de hauteur. C'est pour ça que le paquet a un parachute.
Ces petits avions pèsent 13 kilos et peuvent transporter 1,5 kg avec une autonomie de la batterie pour effectuer environ 150 km de trajet. Avant tout décollage, l'équipe d'ingénieurs travaille en synchro pour assurer un bon parcours au drone avec son colis. Avant l'arrivée de cette technologie dans le monde médical ici au Rwanda, non seulement il fallait mettre plus de 3h30 de route pour avoir une poche de sang, il y avait aussi les coûts financiers liés au déplacement de l'équipe. Aujourd'hui, l'hôpital de Kabgaï, comme la douzaine d'autres dans la zone, économise. Ici, le docteur Philippe, médecin directeur de cet hôpital, explique.
On a gagné 2 fois. D'abord, on a gagné le temps pour sauver les patients. Deuxièmement, on a gagné financièrement parce que le chauffeur, le carburant, le véhicule, et puis même le professionnel quand il est allé là-bas, le district de Muhanga couvre une population gravitant autour de 300 000.
Les services d'urgence et surtout celui de la maternité sont les plus soulagés par les services de ces drones sauveurs comme on les surnomme ici.
Donc en moyenne, par mois, on fait des accouchements entre 300 et 350. Césarienne, c'est entre 120 et 150.
À la pédiatrie de l'hôpital Kambgaï, les petites Amina, amenées d'urgence ici, viennent d'être transfusées. Elle souffre de l'anémie. Sa maman peut sourire en voyant son fils grignoter encore un morceau de biscuit. Actuellement, 12 cliniques sont desservies dans un rayon d'environ 80 km. Le nombre de cliniques desservies va doubler avant la fin de cette année, selon les responsables des ziplines. Charlie Kasereka, de retour de Kigali pour VOA Afrique.
Pour terminer, tension dans la péninsule de Corée. Des bombardiers lourds et des chasseurs furtifs de l'armée américaine ont participé ce jeudi à un exercice militaire en Corée du Sud dans une démonstration de force après le tir de missiles de la Corée du Nord au-dessus du Japon. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.